Chaque jour, la fréquence de la paix unit le Congo avec le tour des provinces. Du nord au sud et des grands lacs à la mer, Radio Capi en direct de toutes les provinces. À 8h45, 12h15, 17h20 et 17h50, heure de Kinshasa. Le tour de province, vivez les informations avec les reporters de Radio Capi.
Bien, nous parlons emploi. Aujourd'hui, dans le magazine Okapi Service, comment préparer son dossier des candidatures avant les dépôts. Yves Daniel Gavan est expert en ressources humaines depuis Lubumbashi. Une offre d'emploi vous intéresse. Il faut apprêter vite votre CV et lettre de motivation, ainsi que les copies des diplômes. Alors maintenant, comment bien préparer son dossier des candidatures. Yves Daniel Gavan, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Vous êtes expert en ressources humaines. Comment préparer le dossier des candidatures avant le dépôt?
Ok, merci, monsieur le journaliste. Comme nous nous faisons de le dire, la recherche de l'emploi est un moment très crucial pour celui qui n'a pas de travail. Mmh. Et cela, il y a beaucoup d'exigences pour arriver à séduire les recruteurs. Et la présentation du dossier est un élément clé qui qualifie un candidat à la présélection. Nous disons aussi que lorsque vous cherchez le travail, ce n'est pas le nombre de demandes d'emploi qui vous qualifie au poste. Il existe deux choses. D'abord, la compréhension de l'offre et la manière dont vous présentez votre candidature, ce qui fait l'objet de notre émission. Mmh. Alors, ce qu'il faut savoir, le candidat doit retenir que lorsque on affiche l'offre, il y a une rubrique, il y a quatre rubriques derrière chaque offre, comme nous l'avons dit à l'émission précédente. La dernière rubrique, c'est la rubrique où on dit l'orientation au poste. Et là, vous allez voir l'entreprise précise déjà le type de documents qu'il recherche auprès de candidats.
Oui.
Il dira, par exemple, il faut présenter un CV, la lettre de motivation, les copies des diplômes, attestation de services rendus, attitude de travail, attitude physique, les cartes d'identité, cartes de l'honneur, ainsi de suite. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Le candidat doit savoir que avant de déposer son dossier, il y a trois critères qu'il doit comprendre. D'abord, les critères ce qui concerne le fond de son dossier. Là, je ne vais pas plus aborder là-dessus, mais je vais plus parler du deuxième aspect sur la forme. Il faut retenir que la forme déjà du dossier peut disqualifier un candidat. Le type de papier qu'il doit utiliser pour écrire, la police par exemple pour le dossier qu'on doit saisir, il faut quel type de police, le format recommandé et voire même comment on doit écrire sur l'enveloppe. Parce qu'il y a des gens qui ne savent même pas à quel endroit on doit mentionner les adresses sur l'enveloppe. Ils écrivent n'importe où, et par moment, ils utilisent même des enveloppes qui ne sont pas recommandées pour envoyer les dossiers. Donc, et aussi, c'est par rapport au classement. Donc, troisième critère, c'est le classement. Comment on doit classer le dossier dans une enveloppe si on doit, par exemple, envoyer en dur? Parce qu'il y a deux manières d'envoyer. Vous pouvez envoyer en numérique et puis vous pouvez envoyer en dur. Si on doit envoyer en dur, c'est-à-dire qui est imprimé, là, on doit savoir aussi que le classement doit se faire suivant l'ordre que l'entreprise a planifié ou a dispensé dans la rubrique orientation à l'emploi. On dit, par exemple, déposer le CV, la lettre de motivation, les attestations, et on doit trouver dans le classement que le candidat doit envoyer, le premier document, quand on va ouvrir l'enveloppe, on trouve le CV. Le deuxième, on trouve la lettre de motivation, les copies des diplômes et les attestations de services rendus, la carte d'identité, ainsi de suite, suivant l'ordre que l'entreprise dispose. Mais certains, malheureusement, ne le savent pas. Ils prennent à la hâte, ils mettent dans l'enveloppe et sans tenir compte de classement, sans tenir compte des formes de documents qu'il faut... De la forme des documents sur le plan taille, police, format, et comment écrire sur l'enveloppe. Et ça fait qu'il y a beaucoup beaucoup de dossiers qui sont rejetés déjà la présélection parce que la présentation n'a pas été bonne.
Voilà, on retient que la présentation est très importante parce que si elle est mal faite, le dossier du candidat à un poste peut être déclassé par le recruteur. Alors vous avez, dans la présentation du dossier, vous avez parlé du type de papier à utiliser. Alors, monsieur Yves Daniel, quel type de papier un demandeur d'emploi peut utiliser pour sa candidature?
Oui, le meilleur papier à utiliser, c'est le papier duplicateur format A4. C'est le papier recommandé pour une bonne correspondance exigée à la matière. On ne doit pas utiliser les papiers pelures où j'ai vu certains utiliser même de doubles feuilles de cahier. Hein, il arrache double papier dans le cahier de son fils ou de son petit frère et il écrit. Donc, ou encore les réemplois, les papiers où il y a eu des fiches de paie des gens de la Gécamine à l'époque, ils utilisent les versos pour écrire. Donc, on doit acheter un papier duplicateur vierge, comme on le dit, format A4, qui doit être très propre. Et c'est ça le papier le plus recommandé, mais pas le papier pelure ou encore d'autres papiers. Le papier duplicateur A4, je crois que c'est le meilleur papier qu'il faut utiliser.
Bien. Quelle est la police à utiliser? Faut-il écrire à la machine ou faut-il écrire à la main? Alors, comment cela doit se passer?
Oui, c'est le CV qu'il faut saisir à la machine à tout prix. Donc, on ne fait pas les CV à la main. Et la police qu'on utilise, c'est conseillé d'utiliser la police 12. Et il faut aussi choisir la police 12 et puis il faut que ça soit lisible. Il ne faut pas prendre des écritures là qui ne se font pas voir correctement. Et c'est la lettre de motivation, c'est celle-là qu'on écrit généralement à la main si l'entreprise ne dit pas qu'il faut les dactylographier. Si l'entreprise dit qu'il faut dactylographier la lettre de motivation, alors cette fois-là, il faut la saisir. Mais si l'entreprise ne dit pas quelque chose, la lettre de motivation, cette fois-là, on doit écrire à la main et avec toutes les dispositions, c'est-à-dire du côté, laisser une marge du côté gauche de là où vous écrivez, une marge de 5 cm et une marge d'un centimètre du côté droit de votre papier. Et essayer d'écrire de manière à ce que les écrits soient gardent la ligne droite, pas des écritures, les lettres qui les phrases qui descendent, qui remontent. Ça ne donne pas une bonne impression par rapport au lecteur.
Bien, comment préparer son dossier à la candidature à un poste? Le sujet vous intéresse, appelez-nous au 081-800-93-94. Nous recevons aujourd'hui Yves-Daniel Gavin, expert en ressources humaines. Appelez-nous au 081-800-93-94 pour participer.
Écho d'économie sur Radio Okapi, la vie économique du Congo a une vitrine. Écho d'économie, 18h15 heure de Kinshasa, un magazine qui prend la température. Les marchés, la vie des entreprises, le monde rural, des questions se posent, nous y répondons clairement. Les bonnes initiatives, une nouvelle idée, reportage sur le Congo qui bouge. 18h15, Écho d'économie, une émission de référence qui parle à tout le monde.
Comment préparer son dossier de candidature et comment présenter ce dossier au recruteur? Notre invité nous parle de la forme du dossier, le type de papier à utiliser, la police, il a parlé de la police 12 qu'il faut utiliser, et généralement la lettre de motivation est écrite à la main. Et alors comment écrire maintenant sur l'enveloppe, monsieur Yves?
Oui, sur l'enveloppe, d'abord il faut préciser. Il faut utiliser l'enveloppe A4, il faut éviter les petites enveloppes A5, où vous devez...
Oui, allez-y. Monsieur Yves, voilà. Désolé, il n'est plus en ligne, on va le rappeler. Hein. On va le rappeler dans quelques instants. Yves-Daniel Gavan, expert en ressources humaines. On va poursuivre cet entretien. Le temps peut-être d'accueillir un auditeur qui nous appelle pour poser sa question. Vous êtes également intéressé à ces termes. Appelez-nous 081-800-93-94. Mardoché nous appelle des Guémena. Bonjour.
Bonjour, monsieur Jean.
On vous écoute, Mardoché.
Ah bon, je voudrais savoir, poser à l'invité, dans toutes les demandes qu'on nous demande, d'ailleurs, aux gens, demande de réserver des coupes c'est-à-dire la note, un copie pour... Bien qu'il y a seulement un team de la
société. Oui, Mardoché, la communication n'est pas bonne. Mardoché, on vous entend pas très bien. Est-ce que c'est possible de vous déplacer un tout petit peu? Peut-être que ça va... La communication va s'améliorer.
Ça va?
Non, pas du tout. Pas du tout. Voilà, ici, c'est mieux. Veuillez vous déplacer. Et je crois que cela va améliorer la communication. Notre invité, on fait signe qu'il est de nouveau en ligne. Oui, Mardoché, c'est fait?
Oui.
Voilà, allez-y.
Je voudrais savoir si vous voulez adresser votre à un DG. Et on vous demande de réserver trois copies pour trois personnes référentes. Donc, c'est seulement un DG. Quel type de personnes
dans
ce haut d'emploi, par exemple?
Voilà, c'est sûr. La communication n'est pas toujours bonne, mais j'ai quand même saisi un tout petit peu, peut-être, sa pensée. On vous demande de rédiger, de déposer votre dossier et de l'adresser au DG, tout en réservant trois copies à d'autres personnes. Peut-être notre invité, il a également compris et va nous donner les détails. Docteur Yves.
Bon. Je n'ai pas aussi bien saisi, la communication n'était pas bonne, mais je sais que dans la plupart de dossiers, on demande la référence. Dit au candidat de donner trois personnes de référence.
Oui.
Qui cite trois personnes de référence. Cela ne veut pas dire qu'il faut garder trois copies à ces personnes de référence. Donc, ce sont des personnes qu'on doit citer dans son CV, pour des éventualités qu'on pourra rappeler pour avoir certaines informations du candidat en cas de besoin. Donc, quand on dit préciser dans avec trois personnes de référence, on ne dit pas qu'il faut écrire trois lettres que vous allez référer, donc trois types de lettres. Non, c'est on veut vous dire que dans votre CV, mentionnez trois personnes de référence. En cas de besoin, nous pouvons leur poser des questions pour avoir la certification sur votre candidature. Donc, je crois que c'est ce qu'on met. On ne demande pas au candidat d'écrire trois copies. Je n'ai jamais vu ça.
Bien. Espoir nous appelle des Kindou dans la province du Maniema. Bonjour, Espoir.
Bonjour, bonjour Radio Capi. Bonjour aussi à notre invité.
Quelle est votre question?
Oui, je voudrais juste demander à notre invité, est-ce qu'il est important d'écrire votre situation de chômage à votre correspondance. Si vous voulez demander un emploi, est-ce que vous pouvez dire à votre correspondant que j'ai fait 5 ans après les études, je n'ai pas trouvé l'emploi. Est-ce que c'est-il important de continuer cela?
Voilà, faut-il signaler à votre au recruteur que vous avez fait 5 ans au chômage? Bien qu'on parle de la forme. Alors, docteur Yves, qu'est-ce que vous pouvez dire à Issoir?
Oui, j'ai souvent réagi à cette question en disant ceci, que les entreprises ne sont pas des clubs de charité. C'est le milieu où on vient vendre son expertise, en retour on le paye. Donc, qu'est-ce qui va ajouter à votre candidature quand vous vous mettez à plaire, comme certains aussi écrivent, je suis orphelin, aidez-moi, je prie beaucoup, je suis intercesseur dans une église, si vous me prenez, je vais commencer à organiser des veillées à l'intention de les...
L'entreprise.
Toutes ces histoires n'ont rien à faire.
Oui.
On doit rester focus sur le profil qui est en face de vous. Et battez-vous pour être à la hauteur d'arracher ces postes en démontrant de quoi vous êtes capable sur le plan de votre expérience ou l'expertise. Donc ça ne sert à rien de dire non, en tout cas prenez-moi, ça fait 5 ans que je ne travaille pas. Ça n'a rien à voir avec les exigences des postes.
Voilà, ça n'a rien à voir. Alors, comment écrire sur l'enveloppe? On était à ce point-là. Comment écrire sur l'enveloppe? Vous avez dit qu'il faut choisir une enveloppe A4. Et maintenant, quelles sont les mentions, les inscriptions à mettre là-dessus et comment cela doit être disposé?
Ok, donc vous prenez l'enveloppe A4 qui est plus recommandée. Vous la retournez du côté du dos de l'enveloppe, c'est-à-dire pas du côté où il y a le bâton qui ferme et qui ouvre. Du côté du dos de l'enveloppe, vous faites une ligne imaginaire, une croix imaginaire sur l'enveloppe, c'est-à-dire vous divisez ça en 4 en faisant une croix imaginaire, et la partie inférieure droite, à votre droite, et cette partie-là, ce cadran-là, en bas, donc à droite en bas, là où il faut mentionner l'adresse, c'est-à-dire, par exemple, à messieurs le directeur des ressources humaines de la radio Capi et ainsi de suite à Kinshasa. Et si, par exemple, certains employeurs exigent à ce qu'on mette la mention de l'offre sur l'enveloppe, cette fois-là, on prend la partie opposée de là où on a écrit. C'est-à-dire qu'on va écrire dans le cadran gauche en haut. Donc, le cadran gauche en haut, l'enveloppe. Là, on écrit la référence des postes, par exemple, numéro 4-F5, ABAS, et ainsi de suite. Donc, c'est ces deux endroits-là, la partie inférieure droite et la partie supérieure gauche, lorsqu'on fait notre ligne imaginaire, la partie inférieure droite, c'est là où on écrit, on adresse à la personne. Et si on nous exige de répondre les mentions de l'offre, on les met à la partie supérieure gauche en haut.
Bien, voilà. Et est-ce qu'il faut-il peut-être dans l'autre partie écrire son nom avec l'adresse, numéro de téléphone?
Non, c'est pas important. C'est pas important de reprendre son nom sur l'enveloppe. C'est juste que vous adressez à la personne et vous mettez le numéro. Parce que dès qu'on va accéder à votre enveloppe, tout de suite, en principe, quand on ouvre l'enveloppe, le premier document qui est au-dessus dans le classement, c'est exigé qu'on voit le CV. Donc, c'est le CV. Quand on sort le dossier, les papiers qu'on tire en premier, c'est le CV. Donc, déjà, sur le CV, nous avons tous ces détails. Ça sera des détails de trop. Mais il faut aussi souligner qu'il faut éviter des stylos de couleur lorsque vous écrivez sur l'enveloppe et voire même pour des lettres de motivation. Préférence, il faut utiliser les stylos bleus. Et s'il n'y en a pas vraiment, on peut peut-être tolérer les noirs. Mais pas le vert, pas le rouge, pas le violet et pas les autres. Donc vraiment, c'est mieux d'utiliser les stylos appropriés, qui est le stylo bleu, pour bien écrire tous ces documents et voir même sur l'enveloppe.
Voilà, utiliser les stylos. Il est recommandé d'utiliser les stylos bleus lorsque vous rédigez vous mettez des inscriptions sur l'enveloppe. Des questions et préoccupations, appelez-nous au 081 890 63 94. Nous parlons aujourd'hui de comment préparer son dossier, donc comment présenter son dossier des candidatures. Alors docteur Yves, est-ce qu'on peut dire que le simple fait de mal présenter les choses diminue les chances du candidat au poste?
Oui, ça influence effectivement le champ par rapport à la présélection. Parce que vous savez avec moi qu'aujourd'hui, vu l'emploi aujourd'hui, le chômage plutôt devient un fléau. On peut aligner le chômage comme le sida, comme Ebola et comme les autres. Donc au Congo, le chômage devient aussi un fléau pour lequel il faut vraiment faire des efforts pour arriver à éradiquer. Ce qui fait que pour un seul poste, par exemple, vous allez voir, on vous envoie 500 dossiers. Pour un seul poste. Non, vous arrivez à trouver 500 dossiers. Et les recruteurs qui doivent faire la sélection, ils souffrent parce que devant lui, il a tellement de dossiers qu'il doit traiter et qu'il ne sait pas par où commencer. Alors, déjà, la présentation des dossiers, c'est le premier facteur qui fait déclasser beaucoup de dossiers. Quand on voit déjà que le dossier n'est pas présenté correctement, sur le plan de la forme, je n'ai pas parlé de fond, parce que sur le plan de fond, c'est là où on prend les dossiers, on commence à voir les pièces que vous avez mises à l'intérieur. Mmh. Il y a des gens, par exemple, on demande le CV, la lettre de motivation, l'attestation de service rendu, carte d'identité. Lui, on voit juste son CV. Il n'envoie pas tous les restes. Donc, il a fait une mauvaise présentation sur le plan de fond. Et on déclasse déjà son dossier parce que c'est incomplet. Donc, et si on voit aussi que déjà... le classement n'a pas été bon. Il y a certains employeurs qui sont très exigeants, trop regardants. Quand ils voient qu'il fallait commencer par le CV, la lettre de motivation, lui commence par la carte d'identité et tout ça, il peut déjà déclasser. Donc, plus l'emploi se fait rare, plus aujourd'hui les recruteurs deviennent de plus en plus exigeants. C'est pourquoi nous donnons ces petites astuces, parce que nous sommes de la boîte. Nous savons comment on fait, surtout quand vous vous retrouvez pour un seul poste, vous avez 500 000 candidats à qui possible. Voilà un peu la difficulté.
Bien, nous avons Aline Dieu, merci, de Manono. Dieu merci nous appelle depuis Manono, dans la province du Katanga. Bonjour.
Bonjour Radio Capi. Bonjour à tous les amis qui suivent la Radio Capi.
On vous écoute, Dieu merci.
Oui, moi j'ai deux petites questions à poser à l'invité du jour.
Oui.
Ma première question, c'est de savoir, bon, nous voulons nous aider. Un candidat a déjà fait beaucoup de formations. Il a au moins 6 brevets, 7 brevets. Maintenant, suivez, continuez son dossier. Sur quel ordre est-ce qu'il doit classer ses brevets? Ça, c'est la première question.
Mm-hmm.
La deuxième question, c'est par rapport au profil du poste. Maintenant, est-ce que l'invité du jour peut nous aider à donner? Parce que il arrive des fois, vous trouvez un poste ou bien une offre qui a au moins 8 profils. Est-ce qu'il faut prendre tous ces profils ou soit il faut passer par la sélection de certains profils qui semblent être intéressants par rapport au reste de profils sur l'offre? C'est ces deux questions que j'avais à poser à notre invité. S'il peut nous aider à répondre à ces deux questions.
D'accord, merci. Dieu merci de Manono. Yves Daniel.
Oui, par rapport à sa première question, vous pouvez avoir autant de certificats, de formations, voire même de diplômes, mais c'est pas tous ces certificats ne vous donnent pas, vous ne devez pas les présenter à tous les postes parce que ça ne correspond pas à tous les profils du monde. Donc, pour chaque profil, il y a certains certificats qui ne vont pas répondre forcément aux exigences de ces postes-là. Donc, ce n'est pas forcément si tu as 10 formations dans différents domaines et à chaque fois que tu veux postuler, tu prends tes 10 certificats, tu le mets et tu envoies. Non, il y a des certificats qui, par moment, qui doivent être déclassés. Mais quand on doit les classer, comme je l'ai dit d'abord, lorsque vous les faites mention dans votre CV, on commence toujours par parler de formations récentes en allant vers les formations le plus ancien. Ça, c'est dans votre CV. Lorsque vous mentionnez ces certificats. Mais maintenant, lorsqu'on doit classer les dossiers dans l'enveloppe avant d'envoyer, voici l'ordre qu'il faut respecter. On met d'abord les CV, la lettre de motivation, les copies de diplômes. Après les copies de diplômes, vous mettez maintenant les copies de certificats si vous les avez ou pas. Si vous avez, vous les mettez après vos diplômes. Et après les certificats et le brevet, on passe aux attestations de services rendus. On met les attestations de services rendus. Après, on passe aux attestations d'aptitude physique, si c'est exigé ou pas. Et on va vers carte d'identité, si on a demandé une carte d'identité. Et la carte de l'ONEM, si on l'exige, ça viendra en dernier lieu. Voilà un peu comment est-ce qu'on essaie de classer de façon classique un dossier dans une enveloppe. Alors, la deuxième question, c'est par rapport au profil. Il dit il y a plusieurs profils, tout ça.
Dans
il doit retenir qu'il n'y a pas plusieurs profils. Pour un poste, il y a un seul profil qui est demandé. Mais dans ces profils, on essaye de détailler en termes de responsabilité ou des tâches que la personne va assumer une fois qu'on lui donne le poste. C'est à ce moment-là qu'on doit faire l'effort pour réunir ces profils. On doit être en mesure de comprendre les différentes tâches qui sont liées à ces postes. On doit faire l'analyse et la lecture et l'analyse des différentes responsabilités liées à ces postes pour voir si son profil correspond bel et bien à ces postes et à ce moment-là, on peut postuler. Donc, ça fait partie de questions de fond lorsque, après la présélection où on déclasse les dossiers qui ne sont pas bien présentés, on entre dans des questions de fond. C'est là où on commence à voir le contenu du CV, le contenu de la lettre de motivation. Et voir même la pertinence de d'autres attestations. Il y a même des gens qui ont des brevets, mais des brevets qui ne représentent rien. Un brevet qu'il a ramassé, qu'il met, ça ne va pas. On doit voir aussi le contenu des informations que présentent ces brevets. Est-ce que ces brevets, le contenu qu'on trouve dedans, est-ce que ça a un lien direct avec le poste ou pas? Il y a des gens, par exemple, il a un brevet, il a suivi un séminaire à l'église, ou comment parler en langue, ou comment interpréter. Mais on cherche... je ne sais pas un financier, il met ce certificat parce que c'est un brevet d'une formation. Donc tu vois que ça
il n'y a aucun rapport
avec
le poste.
Oui, c'est ça.
Bien, Paulin nous appelle des Lubumbashi, et Jurès c'est à Kinshasa. Comment préparer son dossier? Comment présenter un dossier de candidature à un poste dans une entreprise? Appelez-nous pour participer au 081-890-63-94.
C'est parce que Radio KPUNE le Congo que vous êtes concerné par cette émission. habitants de toutes les provinces, parole aux auditeurs et votre émission. Chaque jour de 11h à midi, heure de Kinshasa, le mercredi de 10h à 11h, vous donnez votre avis sur les grands thèmes de l'actualité ou les petits tracas de la vie de tous les jours. À vous aussi de proposer des solutions. Parole aux auditeurs, une émission à réécouter le soir à 20h et sur internet, radiocapi.net.
Comment préparer son dossier des candidatures avant les dépôts? Nous avons Aline Paulin de Lubumbashi et Jires de Kinshasa. Paulin, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
On vous écoute, Paulin.
Ok, j'avais trois questions à poser à notre invité, mais je pense que les autres deux questions venaient déjà de trouver des bonnes réponses là.
Donc vous n'avez plus de questions.
Je me suis resté avec une seule question. Je voudrais demander à l'invité s'il veut nous demander, en fait, nous expliquer quel est le contenu ou bien quels sont les éléments qui constituent la lettre de Lubumbashi.
Bon, aujourd'hui, nous parlons de la présentation du dossier. Donc, on n'est pas, on va peut-être aborder cette question une prochaine fois, les éléments d'une, le contenu d'une lettre de motivation. Merci d'avoir appelé Paulin. Jures, vous êtes à Kinshasa. Bonjour.
Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour à la radio Capi.
On vous écoute.
Oui, moi, j'ai une petite préoccupation par rapport à notre sujet d'aujourd'hui et puis à l'invité.
Mmh.
Oui, vous avez préparé bien votre dossier et vous avez tout respecté comme l'invité a dit et vous avez déposé et vous attendez et qu'on vous répond pas. Vous avez la facilité ou bien la probabilité d'envoyer encore ou d'ajouter encore d'autres lettres pour faire entrer. Et la deuxième question, j'aimerais savoir aussi à l'emplacement de toutes ces lettres-là. Et si vous ne respectez normalement pas l'emplacement, comme la première sujet, on place la lettre de motivation après la carte de l'OM, l'attestation ou le diplôme d'État.
Oui, l'invité a dit qu'il faut commencer par le CV, lettre de motivation, copie des diplômes et les restes ensuite.
Okay.
Et ainsi de suite.
Okay. Ok, ma première question, j'aimerais bien que l'invité me réponde. Merci beaucoup.
Bien, merci d'avoir appelé Paul Jures de Kinshasa. Nous avons en ligne Kassereka à Iziro. Bonjour Kassereka.
Oui, bonjour. Ici c'est Ildefonso Kassereka, je suis à Iziro. J'ai très bien suivi l'intervenant, l'invité. J'ai plutôt une inquiétude quelque part.
Laquelle?
Un candidat qui vient fraîchement de l'université a-t-il vraiment la même chance d'être retenu au même titre que ceux qui sont passés par le boulot, autrement, je peux poser ma question autrement. Comment peut-on établir le profil des candidats qui viennent fraîchement de l'université, étant donné que son CV est quasiment pauvre?
Voilà, son CV est quasiment pauvre, bien qu'il est... Bon, voilà, c'est pas vraiment les sujets du jour, mais d'affaires Yves, vous avez suivi les différents auditeurs. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire?
Bon, par rapport à l'ami qui a appelé de Kinshasa, qui a dit que...
Qu'il a bien préparé son dossier, oui.
Est-ce qu'il faut rédiger une deuxième lettre qu'il fallait déposer? Et j'ai dit tout de suite non, ça ne sert pas. Comme j'ai dit, ce n'est pas les nombres. Vous pouvez déposer 1 million, mais on ne vous appelle pas. Je connais des gens qui ont fait 5 ans, ils ont commencé à déposer, on ne les a jamais appelés. Aujourd'hui, ils ont carrément viré dans le pessimisme et ils ne savent même plus prendre le courage de déposer. Donc, d'ailleurs, sur l'offre, on dit que seules les candidatures retenues seront convoquées. Donc, ils vous informent. Si on ne vous appelle pas, jusqu'à X temps, 1 mois après, 2 mois après, sachez que la candidature n'a pas été retenue. Ou des raisons que l'entreprise elle-même connaît. Donc, alors, ça ne fait pas de crise une deuxième fois. Bon, moi, dresser le profil lorsqu'on doit quitter l'université, ça, c'est un problème très complexe. Et comme vous l'avez dit, ça ne parle pas vraiment avec le sujet du jour. Mmh. Parce que nous ne cessons de dire que, aussi longtemps que nos universités continueront à former des chômeurs potentiels, c'est-à-dire le demandeur d'emploi au lieu de créateur d'entreprise, nous aurons toujours des difficultés et pour mettre fin au phénomène de chômage qui existe bien sûr partout dans le monde, mais nous avons des failles énormes jusque à 90% des jeunes sont dans le chômage. Donc, je pense qu'au niveau de l'université, comme nous faisons de dire, les jeunes doivent déjà avoir ce qu'on appelle un plan de carrière professionnelle. Ils doivent déjà réfléchir autour des différents postes qui sont autour de lui et auxquels il peut déjà se rapprocher en termes de renforcement de capacité, certaines formations professionnelles pratiques pour arriver à créer un portrait robot qui nous permettra d'accéder à certains postes une fois qu'il finit l'université. Voilà un peu ce que je peux dire à nos familles.
Bien, pour revenir au sujet du jour, à comment présenter son dossier, on retient, notre invité l'a dit tout à l'heure, il faut dans le classer, commencer par le CV, lettre de motivation, copie des diplômes et les autres documents suivent après, utiliser le papier duplicateur A4 et non arracher les feuilles dans un cahier. Et comment écrire sur l'enveloppe? Il a bien dit comment faut-il écrire, classer, et puis le mode d'envoi, on va venir à un autre point, le mode d'envoi, et cela est précisé, il y a certaines entreprises qui précisent qu'il faut envoyer en dur ou envoyer par mail. Alors avant d'en arriver, on va accueillir Jacques qui est à Lubumbashi. Bonjour.
Bonjour et bonjour à tous les auditeurs.
On vous écoute, Jacques.
Ah, ma préoccupation, c'est de savoir pourquoi chaque fois on nous demande lors de la présentation, il faut annexer aussi les attestations de services rendus, donc l'expérience professionnelle. C'est dire maintenant des jeunes diplômés qui n'ont pas encore eu une expérience professionnelle. C'est ça ma préoccupation, merci.
Bien, Yves Daniel.
Oui, l'expérience professionnelle est très importante, mais pas toujours essentielle. Parce que les gens qui ont travaillé pour la première fois ne diront pas qu'ils ont eu l'expérience quelque part. Donc, ils ont commencé parce qu'ils détenaient une expertise. Mais ce qu'il faut souligner aux amis, il y a certains postes qui exigent nécessairement une expérience.
Monsieur
donc,
Yves, la communication.
Dans le domaine des finances.
Oui. Monsieur Yves.
Dans le domaine des finances. Oui.
Voilà, je disais que la communication, c'est un tout petit peu détérioré, si vous pouvez vous déplacer un peu, peut-être que ça va encore s'arranger.
Okay.
Oui.
Voilà, ça va, je me déplace.
Voilà, nous parlons de la préparation du dossier, comment préparer et présenter son dossier. Et Jacques vient de nous appeler de Lubumbashi pour dire que lors de la présentation du dossier, on exige les attestations des services rendus, alors que certains viennent fraîchement de l'université, n'ont pas encore rendu des services quelque part dans certaines entreprises. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire à Jacques?
J'étais en train de dire que l'expérience reste un élément important dans la démarche de recrutement, mais ce n'est pas une panacée, parce que il y a des gens qui travaillent aujourd'hui, je dis souvent, quelqu'un qui a travaillé pour la toute première fois à ce poste, parce qu'il avait tiré l'expérience. Donc, l'expérience, on l'acquiert au fur et à mesure qu'on travaille. Mais le plus important que Jacques doit savoir, c'est que si tu veux postuler par rapport à un poste, et que tu n'as pas une expérience, essaie au moins d'avoir une expertise, c'est-à-dire une maîtrise par rapport à ça. Une attitude professionnelle pratique, lorsqu'on te donne l'opportunité d'exercer, tu ne l'as jamais fait, mais tu le fais parce que tu as une certaine expertise. Mais aussi, il doit savoir, si on le demande, parce qu'il y a certains postes qui exigent effectivement de l'expérience. On ne peut pas, tu finis fraîchement de l'université, on te donne par exemple le poste d'un directeur financier d'une grande entreprise, que tu sors tout fraîchement de l'université au Congo, c'est impossible. Ce sont des postes sensibles, ce sont des postes stratégiques, ou encore on te nomme un directeur général d'une entreprise alors que tu sors fraîchement d'une université, tu n'as même pas appris à diriger même une chorale ou une petite équipe de foot du quartier. Donc, vous comprenez que l'expérience reste un facteur aussi important, surtout pour certains postes, mais du commun des mortels, comme je dis, ce n'est pas une panacée. Si vous avez une expertise, on peut vous prendre parce qu'il n'y a aucune personne qui est née avec expérience. Tous nous apprenons, c'est en apprenant que nous acquérons l'expérience. Voilà un peu ce que je peux dire à vous.
Voilà. Par rapport au mode d'envoi, si l'entreprise n'a rien précisé, on peut envoyer par les deux façons, en dur et on envoie par mail.
Oui, mais généralement, une entreprise sérieuse prend toujours soin de donner le mode d'envoi. Mais comme nous avons aussi des gens parachutés en gestion des ressources humaines, quelqu'un qui ne connaît rien, il est là parce qu'il doit être là, parce que quelqu'un a besoin de voir sa tête à ce poste, excusez-moi. Les gens qui vous demandent en même temps d'envoyer lettre de motivation et lettre de demande d'emploi au même moment, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils veulent rechercher exactement. Et ce sont ces gens de personnes qui ne savent même pas quels sont les critères pour élaborer l'offre. Là, c'est la faute au directeur des ressources humaines. Mais en principe, on ne doit pas envoyer par les deux voies, on doit choisir une seule voie parce que toutes les voies vont mener à l'entreprise. Et si on précise en dur, il faut écrire à l'adresse. S'il faut l'adresse email par courriel, il faut aussi envoyer, soit vous choisissez le dur, soit vous choisissez par courriel. Mais ce que je voulais préciser, c'est par rapport au classement. Même quand vous envoyez par courriel, vous gardez la même disposition que j'ai dit quand vous mettez sur un dur. C'est-à-dire quand vous allez faire pièce jointe, le premier document que vous allez joindre, ce sera le CV, la lettre de motivation et tous les restes associés, tels que quelqu'un qui l'a fait en version dure.
Bien, Georges nous appelle de Lubumbashi. Bonjour.
Bonjour.
On vous écoute, Georges.
Bonjour, monsieur le journaliste.
On vous écoute.
Oui. Bon, ma question, ma préoccupation, t'as rapport avec, toujours dans le cadre de la présentation, est-ce que, comme certaines entreprises l'exigent, est-ce qu'il faut annexer à la lettre de demande d'emploi une référence pour augmenter la crédibilité? Par exemple, une référence est entrée à la FIE, est entrée à, je sais pas moi, à certaines relations, pour augmenter la crédibilité de la, surtout lorsque la personne sollicite un poste financier, on a tendance à vouloir le situer par rapport à la famille, par rapport à certaines relations qui n'ont peut-être apparemment rien à voir avec le travail, mais qui peuvent jouer sous dans le sens de la crédibilité. Est-ce qu'il est nécessaire d'annexer, par exemple, une carte de visite de son papa, qui est, je sais pas moi, professeur ou quoi, etc., hein, pour augmenter la crédibilité?
Bien. Yves Daniel.
Non, c'est pas important, je dis tout de suite, de mettre le cadre de visite ou de faire mention des gens dans votre lettre de motivation ou encore la lettre de vente de compétences qu'on appelle la lettre de demande d'emploi. Mais ce qui est plus important, c'est dans chaque CV, il faut dans la rubrique personnes de contact, on nous demande souvent de mettre deux ou trois personnes de référence. Et à ce moment-là, si tu as besoin de mettre quelqu'un comme référence, il faut le mentionner dans ton CV en mettant son nom, ses contacts, et voire même sa qualification. Ça permet, au cas de besoin, ils peuvent voir ou les rappeler pour qu'ils certifient sur la validité ou donner certaines informations et entrer à ton profil. Donc, ça ne sert pas de mettre des cartes de visite, en mettant des cartes de visite dans le dossier. C'est pas important et c'est pas recommandé.
Voilà, c'est pas important et cela n'est pas recommandé. Alors, lorsqu'on va déposer son dossier, c'est bien présenté, bien classé, on va déposer, par exemple, sur place à l'entreprise, faut-il exiger un accusé de réception?
Oui, apparemment, c'est toujours important, surtout sur le CV, parce que le CV, c'est le document le plus important dans la recherche de l'emploi. On peut s'en passer de tout le reste des documents, mais le CV reste le document clé, le document le plus important sur lequel on doit y travailler sérieusement. Donc c'est toujours recommandé, lorsque vous déposez votre candidature, avoir ne plus que la copie de votre CV pour qu'on accuse réception. Mais il y a beaucoup de difficultés, monsieur le journaliste, qu'il faut souligner, surtout avec nos amis qu'on appelle les sentinelles en tenue, donc les gens de gardiennage. Qui complique l'existence aux amis, il fait quoi militaire, il fait quoi généraux, parce qu'on lui a demandé un service. Certains vraiment se comportent très mal, j'ai eu des témoignages, moi-même j'ai vécu, que quelqu'un vient pour déposer la candidature, on répond insolemment, on bouscule les gens, ainsi de suite, et lui, il veut retirer le dossier pour faire entrer, alors que la personne doit lui-même aller au niveau du secrétariat, déposer, et au niveau du secrétariat, il peut demander l'accusé de réception. Généralement, on ne refuse pas. Mais la difficulté, c'est accès à ces structures, surtout par les gens qui gardent l'accès. Mais il faut toujours, si vous avez l'opportunité de demander l'accusé de réception, il faut le demander pour des raisons aussi simples, ça vous permet de le garder, mais aussi, nous avons vu des gens qui ont déposé, mais les dossiers n'ont jamais été arrivés. Et il y a eu un incident, un jour, il arrive là-bas, on dit, nous n'avons jamais vu ton dossier. Quelqu'un qui a fait le malin, qui surtout pour des postes qu'on met en vacances, qu'il y a quelqu'un qui travaille, on a mis son poste en vente, il peut s'arranger autour de lui, on a vu beaucoup de scénarios, pour ouvrir certains dossiers avant l'heure, voir des candidatures à peu près correctes, pour déjà les mettre de côté ainsi de suite. Donc il se passe beaucoup de choses en cette matière. Mais si vous avez l'opportunité d'avoir la cuvée de réception, je pense que c'est important de le demander.
Bien, c'est important de les demander. Merci Yves-Daniel Ngavan. Nous rappelons que vous êtes expert en ressources humaines, intervenant depuis Lubumbashi dans la province du Katanga. Bonne journée et à la prochaine.
Moi qui vous remercie.